Jacques Sommet, comment avez-vous découvert Dieu?
J'ai toujours tendance, devant une question de ce genre, à répondre. J'ai l'impression que Dieu m'a découvert et il y a mis beaucoup de bonne volonté. Mais je peux dire quelque chose sur cette façon dont je crois qu'il m'a découvert. Il m'a trouvé. Et j'ai cédé à cette recherche, bien sûr. Pour moi, tout commence avec le temps de la jeunesse, m'était 15-16 ans. Avant, je suis d'une famille peu croyante, ou en tout cas partagée, ce qui est souvent la société française. Tout le monde sait que l'histoire du christianisme en France au 19e et maintenant a été souvent le partage entre ce qu'on appelait grossièrement, mais ça peut être très noble quelquefois, l'anticléricalisme et la citadelle des croyants, la citadelle ecclésiale. Ma famille a été ravagée par cette division. J'ai eu un grand-père, je ne veux pas rester longtemps là-dessus, mais que j'ai admiré, que j'admire encore, qui était un voltairien impénitent. Et je crois qu'il est mort du jour où il a appris que je devenais jésuite. Car il est mort peu de temps après, oui. C'est un fait. Et je n'avais aucune conscience de ça à cette époque, de ce que ça engageait. Et puis, mais voilà, je suis né à la foi, je suis né à Dieu, nous y reviendrons peut-être, en naissant en même temps aux hommes qui m'entouraient, et qui étaient les jeunes de ces mouvements de jeunesse. Je suis de ce que René Raymond, historien bien connu, a appelé ce printemps mystique, ou ce nouveau printemps mystique et apostolique à la fois de la France et de d'autres pays d'ailleurs, pendant les années 30. Moi, je suis d'origine de travail technique, j'ai tissé la soierie à Lyon, ma cité d'origine, et j'ai habité sur la colline de la Croix-Rousse, c'est la colline de la Révolution de 1830, c'est la colline des Canuts. Et je me suis trouvé là, en même temps, immergé dans la première grande crise économique, celle de 1929, aux États-Unis, qui atteignait la France en 1932. J'ai commencé à travailler en 1931-1932. Et je me suis trouvé donc au milieu de jeunes hommes, de jeunes filles, les uns chrétiens, les autres non, mais si je puis dire, le derrière sur le trottoir. Et il n'y avait pas de sécurité sociale. Alors ça, c'est un aspect. Mais au milieu de tout ça, j'ai contenté Dieu, ou plutôt j'ai entendu Dieu me rencontrer, m'assiéger, si je puis dire, parce que j'ai connu au même moment les fameux mouvements de jeunesse à leur origine. C'est l'époque du début de la JOC, Jeunesse Ouvrière Chrétienne. C'est le début de la JSC un peu moins, mais qui va être très importante après. Et c'est le début aussi et l'épanouissement de ce que j'appellerais, à cause du quartier dont je vous parle, et de l'aspect urbain, le scoutisme populaire. Je mets les deux, n'est-ce pas, pour bien caractériser la chose. J'ai été pris, là. J'ai été pris à la fois par la solidarité. Je n'ai pas pu, à partir d'un moment donné, me défaire de la responsabilité à travers ces mouvements où je me suis engagé, ne sachant pas bien la dimension Dieu dont vous parlez. Mais c'est vrai que c'est dans ces mouvements que j'ai découvert, n'est-ce pas, que la dimension Dieu était peut-être la première. Je dirais aujourd'hui la première, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces garçons, ces filles et ces hommes qui étaient là, évidemment leur avenir dépendait de la façon de sortir de cette crise et de répondre à ce dynamisme de mouvement de jeunes. Mais ce mouvement de jeunes n'était pas simplement, comment dirais-je, une innovation culturelle, n'est-ce pas, une découverte de dimensions qu'on aurait oubliées. C'était encore, ça a été pour moi, à travers cette solidarité avec de jeunes gens et jeunes hommes quelque peu désemparés, pas tous, le lieu où j'ai entendu la voix, n'est-ce pas, qui fait que chaque homme, chaque garçon qui survient au monde, chaque fille qui se met dans son avenir, est regardée par quelqu'un. Que cette dignité, si vous le voulez, pour employer des termes, est infinie. Et quand je dis cette dignité infinie, je ne parle pas seulement un langage moral. Je parle le langage de quelqu'un qui est aimé ou qui est préféré par quelqu'un. Et il faut trouver ensemble.
Vous me parlez de solidarité, mais pourtant oui. Vous étiez d'un milieu bourgeois.
Oui, mais le quartier n'était pas bourgeois. Je vous parle, ma famille est toute bourgeoisie moyenne, il faut aller, on retrouve très vite des origines de leur province française de l'intérieur, n'est-ce pas, plutôt rurale au fond. Le passage du rural à la bourgeoisie s'est fait assez vite à cause de ce métier technique, qui est en même temps un métier d'art, parce qu'on a goûté la soierie, il faut un jugement du qualitatif. Ma famille ne m'a pas enveloppé ni supporté, ni était pour moi une force, je n'ai pas de jugement sévère contre elle, c'est un fait. Mais ce qui m'a saisi, ce sont ces jeunes dont je vous parle, qui étaient dans le quartier voisin de mon habitation. Mais c'est là qu'a été ma vie. C'est là que j'ai commencé à être quelqu'un.
Mais qu'est-ce que veut dire cette solidarité d'un jeune bourgeois avec des ouvriers ?
Eh bien, c'est une question... Elle s'est posée après, très vigoureusement, n'est-ce pas ? Elle ne se posait pas encore alors. Et nous ne considérions pas, surtout dans le scoutisme populaire, mais la JOC, j'ai été coactif avec eux dans la jeunesse ouvrière chrétienne, ça a l'air curieux. Mais pourquoi ? Parce que nous étions ensemble, vous savez, d'abord, cette rencontre, je le dis bien, à l'âge de l'adolescence, n'est-ce pas ? L'adolescence au travail, alors il faut voir que l'adolescence au travail, sur la colline dont je parle, n'est pas tout à fait l'adolescence... à l'usine, sur le tour, ou la fraiseuse, ou la machine-outil, c'est l'adolescence au travail, autour d'un métier qui a immédiatement une dimension qualitative, en même temps qu'une dimension d'opération pénible aussi, il faut travailler tout le jour, etc. Donc les relations sont, par certains côtés, infiniment plus concrètes, plus faciles, et le problème du milieu, donc, que vous évoquez immédiatement, se pose moins. Et alors, en plus, le fait de se rencontrer à travers... ce que j'appelais, et que j'appelle encore, ce scoutisme populaire, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, au fond, un mouvement qui a une perspective éducative très forte, qui n'est pas une éducation qui est marquée d'abord, très fortement, n'est-ce pas, par, je vous dis, la dimension technique, en tant que ceci évoque le tourneur ou l'homme à sa fraiseuse, ce que j'ai fait aussi, mais alors je suis un peu sensible à ça aussi, mais j'ai fait surtout le tissage. Alors, après, ce sont des questions qui sont devenues pour moi beaucoup plus radicales, dans la mesure où je me suis trouvé engagé dans la dimension non seulement sociale, mais politique, du problème proprement ouvrier, et où la guerre, naturellement, est venue mettre l'accent là-dessus.
C'est donc avec ces jeunes gens, vous aviez un projet de transformer la société.
Oui, un projet, à moins de réagir et de ne pas accepter une société dans laquelle la crise objective, économique, etc., entraînait de pareilles dérédictions au niveau de l'attitude de ces jeunes devant la vie. Alors faire ensemble, fût-ce à partir du petit groupe, du groupe plus grand, d'un quartier de grande ville, de la dimension urbaine d'une grande ville comme Lyon, qui était déjà une grande ville, eh bien, construire un avenir et en particulier inventer ensemble la façon de s'éduquer pour faire face à cet avenir qui venait, pour le deviner, pour essayer. Alors ça, pour moi, ça a été capital.
Mais je ne vois pas encore très bien ce que Dieu vient faire là-dedans, n'est-ce pas ? On n'a pas besoin de Dieu pour...
Non, mais tout à fait. Mais Dieu n'est pas venu tout de suite faire quelque chose là-dedans. Ça a commencé comme ça, n'est-ce pas ? Bon. Mais alors pour moi, du moins, et ce qui m'est arrivé, c'est l'aventure propre de la dimension religieuse, n'est-ce pas, je sais bien de votre avis, c'est que peu à peu, il m'est survenu le fruit de cette confrontation avec ces jeunes gens a été la découverte que chacun d'eux, il faut bien reconnaître que le monde où nous étions n'y portait pas spontanément, n'est-ce pas, que chacun d'eux était, on le dira plus tard avec un peu de facilité, mais quand même une image de Dieu, que chacun d'eux était irremplaçable, que chacun d'eux était un appelé par une dimension qui faisait qu'il était lui-même et pas un autre, et que ceci ne pouvait se faire que dans la réponse à un appel gratuit. Alors là, il y a la dimension de la gratuité dans la vie humaine, n'est-ce pas, qui m'a tellement, après, travaillé, on retrouve ça tout au jalon de ma petite existence, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, vous voyez, sont nommés par quelqu'un, c'est-à-dire que chacun est incomparable au voisin, que la vie de chacun se risque, n'est-ce pas, sur ses décisions personnelles. Moi, je me souviens, j'ai été obsédé, avant même que Dieu devienne la figure qu'il me propose de lui-même, à travers l'Écriture, à travers le compagnonnage de chrétiens fervents, etc. Mais combien j'ai été, je peux dire presque obsédé par ça, n'est-ce pas ? Réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne peux pas, moi, la réussir par mes propres forces. Tous ensemble, compagnons de travail, etc., nous sommes autre chose que simplement solidaires au sens de satisfaire les besoins de tous les jours. Nous sommes appelés, et chacun est appelé avec originalité, chacun a reçu un nom, et ce nom est dit par quelqu'un qui nous dépasse.
Autrement dit, il n'y a pas que les déterminismes sociaux, politiques, il n'y a pas que les projets politiques ou économiques, il y a quelque chose d'autre qui est le mystère de la personne.
Alors moi, c'est par là que ceci est venu. C'est-à-dire qu'à travers les solidarités qui ont fait que tant en France, du moins, et ailleurs aussi, se sont apparemment enfermés, n'est-ce pas, dans les solidarités dont vous parlez, dans l'aspect mécanique presque, n'est-ce pas, de la chose sociale, de la chose économique, de la chose politique, etc. Et moi, je dois dire, au contraire, l'expérience de ça, puisque j'ai été obligé de traverser ces zones-là avec ces camarades, ça a été que justement, en chacun, dit ce que vous venez d'appeler, la dimension personne, vous comprenez, est première. Et je crois que le ton est si bien resté que récemment, dans une émission qui ressemble à celle-ci, mais qui a été portée, M. Elkabbach m'interrogeait au bout d'un moment à propos de questions, nous reviendrons peut-être, mais qui engagent les problèmes de justice et de haine, n'est-ce pas, dans les hommes entre eux. Et je fais allusion aux affaires issues de la résistance et le reste. Et il m'a dit, si je vous comprends bien, mon père, vous avez découvert, vous, et vous avez vécu de ce que la personne est prioritaire à l'intérieur des structures qui la conditionnent, et que son aventure spirituelle, appelons ça comme ça, n'est-ce pas, est première. Je lui dis, oui, c'est tout à fait ça. Parce qu'il m'a dit, j'entends tant de gens dire, n'est-ce pas, chacun transporte son petit secret personnel, mais au fond, il vit suivant les grands déterminismes qui s'imposent à lui, et il n'y a pas d'autre aventure de l'humanité. Alors je dis, si cela est vrai, je ne suis plus moi-même.
Mais pourquoi, par exemple, à ce moment-là, vous décidez de devenir jésuite?
Parce qu'enfin, ah, oula, oui.
Pas, vous découvrez Dieu, vous décidez de devenir jésuite. Dieu. Bon, vous auriez pu vous engager dans un parti politique.
Alors Dieu, pas tout à fait dans le mesure où là. Enfin, tout à fait, j'aurais pu. Mais je ne me suis pas engagé dans un parti politique. Alors il y a des questions qui sont un peu le secret de chacun. Pas bon, pas secret au sens de choses cachées, mais au sens de mystère, de pour l'un qui n'est pas le mystère pour l'autre. Je dis tout de suite, par exemple, que pendant que je faisais ces études techniques, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous que j'avais un petit, comment est-ce qu'il faut dire, un petit poète, un petit coup personnel penché pour la philosophie. Personne ne m'enseignait la philosophie. Mais j'ai lu Descartes en cachette pendant mes cours de mathématiques. Des méditations, au moins, n'est-ce pas? Alors, d'où ça vient? Vous me direz, c'est pas encore Dieu. Je suis tout à fait d'accord, je n'entends pas mettre Dieu, même dans la philosophie seulement, n'est-ce pas? Alors, d'où est venu cela? Vous savez, je me le demande encore. Et d'où est venu le rapport avec la compagnie? J'ignorais tout à fait les jésuites. Je n'ai pas été dans un collège jésuite, je n'étais pas dans les milieux que touchaient dans l'ensemble, enfin, à ce moment-là, les jésuites. Maintenant, ils ont des écoles techniques qui touchent des milieux de ce genre, mais à cette époque, non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que j'ai un peu inventé ce que pouvait être la compagnie, puis ensuite je l'ai trouvée. C'est un peu téméraire, cette parole. Mais elle n'est pas téméraire, puisqu'elle est... Enfin, elle est... on m'a reconnu quand même, on ne m'a jamais mis dehors en me disant « Vous avez pris un mauvais chemin ».
C'est le mot d'un artiste. Je trouve d'abord, j'invente ensuite, je cherche ensuite. N'est-ce pas? C'est un peu la même chose.
Eh bien, ça peut... Ben, il y a un peu de ça. Alors, j'ai pensé, moi, à partir du moment où cette sorte... Je me suis dit, nous sommes si peu, je n'ai pas là un infini qualitatif dont je serais magnifiquement glorieux. Non, c'est pas ça, mais dans la mesure où cette préférence de Dieu apportée parmi les hommes, vous voyez ce que je veux dire, on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire, chaque homme est un préféré de Dieu. Si ceci ne sort pas de ma vie alors que moi, ça m'envahit, je ne peux pas vivre sans cette référence à ça, alors combien ceux qui ne sont moins sensibles à ça, mais dont c'est la vérité quand même, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc je dois me consacrer à ça. Mais me consacrer à ça, c'était trouver une voie dans laquelle se recompose, sans trahison, sans faiblesse ou sans facilité, le souci du sérieux du travail, le sérieux politique aussi, le sérieux culturel, n'est-ce pas? Et cette présence gratuite de Dieu qui, à travers ça, appelle chacun d'une façon infinie, d'une façon particulière, d'une façon originale. Alors je dis, ça devrait exister. Je me suis dit, il doit exister un lieu, n'est-ce pas? Où la rencontre, la confrontation du travail culturel, du travail technique, etc., et de la gratuité de Dieu se vivent ensemble. J'ai cherché, il y a des questions de tempérament qui jouent, naturellement. Je ne dis pas que j'ai cherché très longtemps du côté monastique, par exemple, j'aurais pu, mais enfin, ce n'est pas le cas. J'ai cherché, j'ai tâté le terrain, j'ai ouvert et frappé aux portes, un peu, parce que ce n'est pas commode quand on n'est pas dans l'institution même ou dans ce qui... Alors, j'ai fini par rencontrer un ou deux jésuites. Alors, il faut dire que dans le quartier populaire où j'étais, et à travers ces mouvements de jeunesse nés, j'ai connu un ou deux jésuites, mais pas beaucoup. Mais quand même, ça me laissait une sorte d'appréhension d'un modèle pour moi possible, d'une pratique possible. Et bon, j'en suis resté là, j'ai travaillé un certain temps, et j'ai fait le service militaire, etc., ce qui a été un moment de réflexion profonde. Et en revenant, je me suis dit, non, il faut que j'aille au bout. J'ai dit ça à ma famille, qui en était complètement déconcertée, à quoi je répondais que je l'étais moi-même. Et j'ai été trouvé un bon jésuite qui avait travaillé beaucoup en milieu ouvrier, justement, lui. Alors nous nous sommes mis d'accord, nous avons fait chemin ensemble quelque temps, mais très rapidement. Je n'ai eu qu'une surprise, n'est-ce pas? C'est que, naturellement, la formation technique n'avait que peu à voir avec la formation humaniste au sens très classique du mot, quand ça implique le latin, le grec et je ne sais quoi encore. Et tout ça était chez moi un domaine vierge. Alors il a fallu que j'aille apprendre le latin à 22 ans, etc. Bon, Mais enfin, ce n'était pas pour moi une épreuve terrible.
Au fond, vous êtes devenu jésuite parce que vous désiriez devenir un éducateur.
Et il y a un peu ça, je crois qu'il y a un peu un carrefour de choses. C'est certainement, malgré moi, je me trouve dès le début découvrant Dieu même, n'est-ce pas, à l'intérieur d'une tâche qu'on peut appeler éducation. N'est-ce pas, le rapport avec ces jeunes garçons, etc. Et vous avez raison, aujourd'hui encore, quand on parle d'autres questions, comme les questions politiques, ça peut revenir aux autres, je dis tâche première, formation. Seulement pour certains, ça paraîtra une fuite, ça peut paraître une palinodie, mais j'ai ma façon de le dire et de le vivre. Mais je suis entièrement de votre avis sur la question, la pertinence de la question que vous me posez.
Alors qu'est-ce que ça veut dire formation? Qu'est-ce que vous entendez par là?
Formation, j'entends par là, quand il s'agit de jeunes hommes, ou d'une génération donnée, ça veut dire marcher avec eux, marcher à leur côté, en faisant tout pour découvrir, pour tenter de vivre à la fois du point de vue pratique et du point de vue social et du point de vue de la réflexion théorique aussi et du point de vue de la foi, n'est-ce pas ? Tenter de vivre dans l'histoire où je suis en étant fidèle au déterminisme technique, économique, etc. Et en même temps, à la gratuité de cette foi, ça implique une certaine attitude, n'est-ce pas ? Il faut à la fois devenir compétent, il faut dans cette compétence avoir l'humilité de ne pas décider par soi-même seulement ce qu'on doit faire, mais essayer et apprendre à entendre Dieu dans les choix les plus sérieux de l'existence, j'y reviens, économique, politique, etc. C'est pas si je m'explique bien, voilà.
Dans le livre que vous avez écrit récemment, intitulé « L'honneur de la liberté », bien que le titre soit réduit à expression plus simple par rapport au nom de l'auteur, vous revenez continuellement sur ce thème de la liberté.
C'est vrai.
Liberté qui semble être absolument au centre de votre vie.
Oui, tout à fait.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, la liberté, pour vous ?
Alors, la liberté, pour moi, là, c'est précisément de reconnaître qu'il n'y a vie humaine que là où il y a des êtres responsables. Et où cette réponse n'est pas seulement une réponse comme ajustement aux nécessités de l'existence de tous les jours, techniques et autres, j'y reviens, positives, mais est aussi une réponse à cet appel à l'intérieur des conditions où je suis. Et de ceci, moi seul peux répondre. Je ne peux pas répondre, je ne peux pas apprendre par cœur, même du catéchisme que je respecte, ou de ce que je dois moi décider dans telle ou telle circonstance. Je peux me préparer. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au moment où je décide, confère la décision de participer au mouvement de jeunesse en y engageant peu à peu tout ce que j'étais, confère de rentrer dans la compagnie de Jésus, n'est-ce pas ? Confère ensuite le problème, je vais tout de suite plus loin, de la résistance pour nous, Français, etc., à certains moments. Eh bien, tout ceci, c'était des étapes dans lesquelles je pourrais avoir fait tout ça. Je pourrais avoir fait du mouvement de jeunesse, je pourrais être devenu jésuite, je pourrais avoir fait de la résistance et avoir loupé le coche. Si je n'avais pas tenté, n'est-ce pas, de répondre à chacune de ces sollicitations au nom même de ma responsabilité, c'est-à-dire prendre en main la décision que je porte et par laquelle je m'engage. Et dans cette décision, que la référence à Dieu qui m'appelle soit une lumière principale. Enfin, si ça ne passe pas par là, je peux douter. Je peux être comme celui qui réalise, après tout, une certaine volonté de puissance. Je me souviens toujours, dans ma jeunesse, cette jeunesse en transformation, combien de temps j'ai été travaillé par cette question. Si à 18 ans ou à 20 ans, on manque sa vie, alors on est coincé. Il ne faut pas manquer ce passage. Mais pendant longtemps, cette expression, pour moi, est une expression trop, j'allais dire, humaine. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'elle n'était pas encore, si je manque l'appel de Dieu, c'est déjà autre chose. Passer de manquer l'appel de la responsabilité à prendre. Alors ça, c'est la découverte d'un jeune type, des dimensions, de sa présence au monde, de ses possibilités, de ses virtualités, de qu'on peut faire quelque chose dans ce monde. Bon. Et puis à l'intérieur de ceci, découvrir que faire par soi-même, c'est bien beau, toutes les illusions sont permises. N'est-ce pas ? Et plus tard, toutes les auto-créations, toutes les autosuffisances, enfin, c'est pas pour rien que je me suis heurté à travers tout ça, n'est-ce pas ? Et combien d'autres l'ont fait ? Je ne suis pas un phénomène unique, je parle de ce que j'ai reçu avec beaucoup d'autres, de ce que j'ai fait avec beaucoup d'autres. Mais combien la rencontre avec, prenez l'épreuve qui a été pour la France sa défaite, puis la reprise, l'essai de réveil politique, etc. Ceux qui ont vécu cette période, cette reprise, mais en pensant que c'était à eux de faire ça par eux-mêmes, d'une certaine façon, sans aucune aide, d'une certaine façon, que tout pouvoir leur était donné parce qu'ils étaient des hommes. Alors je dis ça, c'est à la fois merveilleux comme début, et c'est une illusion profonde.
C'est pourquoi vous pensez que puisque la liberté n'est pas une affaire de solitude.
Ah oui, tout à fait.
Il faut des éducateurs de la liberté. Oui, vous avez voulu être un éducateur de la liberté.
Ben, j'ai voulu, ou je me suis soumis à l'appel auquel je me sentais invité, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas me dérober, à mesure que j'ai découvert, comme je le dis, peut-être pas suffisamment clairement, mais enfin quand même, qu'il fallait passer par la liberté et l'éducation de cette liberté, le passage d'une génération à l'autre, mais non seulement à coup de trentaine d'années, mais de deux années, disons, une équipe qui suit. Tout ceci ne peut se faire que par une transmission que d'autres auront à vivre autrement, mais comment faire ça sans un éducateur de la liberté, c'est-à-dire sans cette question d'accompagnement créateur, mais qui propose à ceux qui sont à côté une création qu'eux-mêmes ont à reprendre et à déterminer d'une façon qui peut-être m'étonnera. N'est-ce pas ? Il y a une aventure qui est sans fin.
Alors contrairement à Sartre qui prétend que l'enfer c'est les autres, pour vous les autres c'est ce qui libère.
Eh bien oui, à condition encore une fois d'être suffisamment exigeant. C'est-à-dire les autres me libèrent quand je les reçois de Dieu.
Car c'est finalement
fût-il
Dieu.
Incroyant. Oui. On peut revenir là-dessus.
C'est finalement Dieu qui libère.
Ah tout à fait, oui.
Là, pour vous.
Oui, absolument. Je raconte ça dans mon bouquin à propos d'épreuves. Alors, je reconnais, mais je parle de l'épreuve de la captivité a été pour moi tout à fait fondamentale à ce point de vue-là, parce que j'ai éprouvé à certains moments la relation avec les autres était terminée, enfin, ou solitude, ou ce qui est la même chose, la promiscuité absolue, n'est-ce pas, si on peut dire. Il y a des moments où on est absolument seul, n'est-ce pas, et même dans cette solitude. Il faut vivre comme ça. Maintenant, cette solitude sort d'elle-même immédiatement. Je ne peux pas vivre longtemps d'avoir redécouvert l'appel de Dieu dans ma solitude sans que ça m'oblige à entendre le voisin, à écouter le voisin et à travailler avec lui.
Vous faites référence, quand vous parlez de captivité, vous faites référence au fait que vous avez été prisonnier à Dachau.
Oui, c'est ça, oui. J'ai été prisonnier d'abord une première fois, en 40, puis oui. Je me suis sauvé. Mais je n'insiste pas là-dessus. Et puis j'ai été repris, dans l'univers concentrationnaire. Et là, évidemment, ça a été pour moi, je ne vais pas y assister longuement, mais c'est quand même un lieu très important, ou capital, du point de vue spirituel.
On y reviendra, si vous voulez.
Oui,
mais j'aimerais qu'on épuise un peu cette question des jésuites.
Mais tout à fait. Oui,
parce que, justement, autour de ce thème de la liberté, parce qu'on peut se dire, n'est-ce pas, enfin, les jésuites sont connus pour être des hommes de la... Enfin, des soldats de Dieu, comme on a dit,
des soldats, à mon point de vue. J'ai été soldat aussi, n'est-ce pas ?
Oui. Mais comment peut-on être libre dans une... Par exemple, chez les jésuites.
Eh bien, je peux dire, parce qu'il y a des éléments très clairs. Ceux qui m'entendent le reconnaîtront ou ne le connaîtront pas, parce que souvent, des gens qui connaissent bien les jésuites ne connaissent pas ça, c'est curieux. Moi, il y a une chose qui, pour moi, est tout à fait capitale, et pas seulement pour moi, pour mes frères jésuites, n'est-ce pas ? C'est de se rappeler ceci, c'est qu'il est vrai que la compagnie est un ensemble d'hommes qui travaillent ensemble, n'est-ce pas, au royaume de Dieu, à travers des tâches très diverses, mais avec une solidarité qui, en effet, prend le modèle ou le style de l'obéissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus responsables à certains moments, encore que ces gens changent tout le temps, mais enfin, donc ils ne sont pas tellement portés à devenir eux les absolus, mais en tout cas, ceux qui leur obéissent ont à obéir. Seulement, alors, il faut bien insister sur la structure assez étonnante. Pour moi, c'est une espèce de révélation dans le temps, et je la vis avec bonheur depuis, je dois reconnaître. C'est que l'obéissance jésuite est une obéissance qui passe par le respect absolu des consciences, de l'autorité et de l'obéissant, pour employer ce mot, n'est-ce pas, dans l'acte même d'obéir. Je prends un exemple concret. Tout jésuite doit, chaque année, enfin il y a des rites, être en communication de conscience véritable avec son supérieur. Ça veut dire, par exemple, ils se rencontreront, je prends les termes un peu habituels, enfin bon, ils se rencontreront une fois l'année, deux fois l'année, je ne sais quoi, avec celui qui représente la province, ce qui pour nous est quand même l'unité organique la plus large, à moins qu'on ne passe alors par l'unité totale, mais en général. Il y a une province en France seulement actuellement, par exemple, c'est un gros morceau. Mais alors avec l'homme qui porte ça, pas pour un temps, pour 6 ans, c'est pas un poste long, et ce qui constitue la vie jésuite pour chacun, pour moi même maintenant, je suis un vieux bonhomme avec toutes sortes d'affaires derrière moi, c'est quand même de rencontrer un homme à qui chaque année, par exemple, ou à un rythme donné, je dirais, avec franchise, n'est-ce pas, ce que j'attends de la compagnie, ce que je n'attends pas, ce qui me gêne, ce qui ne me gêne pas, ce qui ne va pas, à mon avis. Mais de telle sorte qu'il le reçoive vraiment. Et d'autre part, je lui demanderai, moi, ce qu'il pense en vérité, c'est à lui de respecter, s'engager ou pas, mais ce qu'il pense en vérité de ce que je fais, par exemple, dont je suis responsable, etc. Alors il y a là, à mon avis, ce qui fonde l'obéissance comme liberté. Parce que quand deux consciences se rencontrent, qui ont, vivent le devoir de se dire franchement l'une à l'autre, n'est-ce pas, ce qui est fondamental, ce qui va, ce qui ne va pas, il y a une chose intéressante. La première question qu'amorce une série de questions traditionnelles autour de cette rencontre, c'est vivez-vous heureux dans les compagnies ? N'est-ce pas, ça veut dire dites franchement, n'est-ce pas, qu'est-ce qui vous empêche de communiquer ? Où est la transparence ?
Est-ce que je peux vous poser la question ? Est-ce que vous vivez heureux, vous, Jacques Sommet ?
Eh bien, moi, oui. Enfin, d'abord, c'est un peu simple de répondre comme ça, bonnement. Mais je ne voudrais pas, surtout, qu'on pense que je ne suis pas heureux dans la compagnie, parce que je le suis. Je le suis parce que, pour moi, ce que je viens de vous dire, avec en plus les possibilités que ça ouvre de service, là où il y aura un service... moi, j'ai fini une carrière de professeur en France, beaucoup, etc. Mais j'ai eu beaucoup d'étudiants, je prends cet exemple. J'ai eu beaucoup d'étudiants étrangers. Aujourd'hui, ces étrangers me demandent de venir travailler avec eux dans les pays dont ils sont originaires. Ce qui est établi, un va-et-vient. Eh bien, ceci, pour moi, c'est une structure qui est devenue ma structure personnelle. Je réponds à l'appel à travers ce dialogue dont j'ai parlé, et qui peut m'envoyer n'importe où, pas de façon arbitraire, puisque si c'était de façon arbitraire, ça voudrait dire que je n'ai pas le droit ni de me plaindre, ni de m'exprimer, ni de dire mes souhaits. Or, précisément, j'ai le devoir de le faire. Alors j'ai ce devoir de dire ce à quoi j'espère, etc. Et j'ai le devoir, si on me demande, d'aller à droite ou à gauche. Il ne faut pas transformer ça en un système de navette. J'ai été pendant 35 ans stable dans des fonctions que j'avais occupées, qui étaient des fonctions de formation.
Bien, si je vous posais la question de façon un peu plus vague, un peu plus large, qu'espérez-vous, vous, Jacques Sommet ? Qu'est-ce que vous espérez ? Qu'est-ce que vous attendez de l'avenir ?
Ah, moi j'attends. Ah, j'attends de l'avenir. J'essaye de découvrir avec ceux à travers les tâches que j'évoque là un peu ce que Dieu attend de nous et de faire cet avenir un peu dans la lumière de Dieu qui interroge les gens autour de moi, qui interroge les chrétiens, qui interroge de fervents et de très fidèles chrétiens, qui interroge aussi des gens que je connais bien et qui ne réussissent pas à être chrétiens même s'ils en ont le désir, ça existe aussi. Ou bien des gens qui sont des adversaires, mais des adversaires en qui je peux faire confiance. Je ne dis pas que tous sont là, mais il y a certains qui sont des adversaires idéologiques, des adversaires politiques, mais au sens de ce qui pourrait s'inspirer du christianisme, avec lesquels je peux marcher dans la mesure où je m'aperçois un jour ou l'autre qu'ils sont capables de me faire confiance en risquant leurs obédiences à eux absolues, etc. J'ai eu cette expérience. Et à ce point de vue-là, alors travailler à ce que, avec les gens qui sont proches, avec les gens qui sont plus lointains, dans les lieux qu'on m'indiquera, ou dans les lieux que je découvre moi-même, n'est-ce pas, nous nous mettions en route, de telle sorte que quelque chose de la dimension de Dieu puisse être entendu progressivement par moi, pour être fidèle à ce qui m'habite, n'est-ce pas, et pour ceux qui m'entourent.
Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites quelque chose de la dimension de Dieu ?
Ça peut bien, je veux dire, je comprends tout à fait, mais je veux dire, dans la mesure où les hommes et les femmes, n'est-ce pas, ne sont vraiment hommes et femmes dans la perspective que j'exprime depuis le début, là, etc., que si ils découvrent un peu la dimension, hein, je dirais volontiers ça dans des termes qui sont encore très laïcistes un peu, mais la dimension infinie de leur dignité. C'est quand même une chose absolue. Vous voyez, qu'il s'agisse du camp auquel on reviendra, des situations suivantes que j'ai traversées, etc. Ne pas accepter jamais qu'un homme puisse être méprisé, n'est-ce pas, et pousser... Or, ne pas accepter qu'un homme puisse être méprisé, ça veut dire, de façon positive, espérer que cet homme peut découvrir qu'il est aimé de Dieu, n'est-ce pas, et que ceci donne à sa vie un prix infini. Or, ceci, ça demande du temps, ça demande du chemin, ça demande, mais c'est possible.
Tout homme est aimé de Dieu.
Ah oui, c'est sûr. Tout homme est celui qui se croit l'adversaire de Dieu, ou ça le regarde, si vous voulez, mais je dis que vu du côté de Dieu... Et je dis à ce point de vue-là que c'est justement la révélation de ce que dans d'autres langages on peut appeler la transcendance de Dieu, la gratuité de Dieu, n'est-ce pas ? C'est que Dieu aime tout homme, même si cet homme ne l'aime pas.
Même si cet homme se conduit d'une façon indigne d'un être humain.
Oui, mais justement, le rapport de Dieu à cet homme, c'est que même si cet homme se conduit d'une façon indigne, et j'en connais trop, hélas, enfin j'en ai connu surtout, eh bien... De par ce que je dis, il est de mon devoir de considérer ces hommes comme Dieu les considère, c'est-à-dire comme n'ayant jamais achevé leur tâche avant que leur vie ne soit terminée. Et n'ayant pas avancé leur tâche, ça veut dire que Dieu se réserve un jugement et jamais il ne condamne quelqu'un avant qu'il ne meure, n'est-ce pas ? Il y a là une sorte de réserve de tendresse, d'amour de Dieu dans la relation à tout homme. Un homme, jusqu'au dernier moment, peut se sauver, peut devenir digne, alors qu'il mène jusqu'à maintenant une vie indigne. Et cette chance et ce risque, c'est le risque que court Dieu sur les hommes.
Et s'il arrive que l'homme se condamne lui-même, il n'y a pas ce mot aussi de Saint Jean, même si votre cœur venait vous condamner, Dieu ne vous condamne pas.
Eh bien, je retiens ça, justement, et je peux vous citer des cas de, par exemple, une femme incroyante que j'ai bien connue. C'est une femme fidèle à sa façon, mais qui avait été dans le temps croyante. Elle avait laissé couler les jours et les choses et les attitudes et tout ça, etc. Et un jour, elle dit à sa mère, qui était croyante, n'est-ce pas, « Ça ne te fait rien, tout ce que j'ai envoyé promener, etc. » Et sa mère lui a répondu, « Ma fille, tu as encore le temps de vivre. »
Jacques Sommet, je vous remercie.